Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrick Artus, qui vient de rentrer tout juste.
Bonjour, Raphaël.
De plus en plus mal dans Paris, c'est catastrophique.
Ah, c'est épouvantable.
Ah, c'est épouvantable. Bonjour, Patrick, économiste et conseiller économique de la société de gestion Ossiam. Face à vous, Emmanuel Combes. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Raphaël.
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Et j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lenohan. Bonjour, Erwan.
Bonjour, Raphaël.
Fondateur de AKA Stratégie, mais aussi du mouvement Trop C'est Trop. On va en parler, hein. On cherche un nouveau Zuckman Pro Business. Peut-être qu'on l'a autour du plateau. Mouvement que vous avez cofondé avec Eric Momy, le patron d'April, qui porte haut la voix du ras-le-bol patronal en ce moment. On va en parler. Tiens, Patrick, d'abord. Membre du Cercle des économistes, oui. On rentre tout juste de 3 jours intenses à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous tirez des discussions, là, si on fait juste un petit tour rapide?
Les sujets, c'était l'IA, qui était vraiment le sujet le plus fréquent dans toutes les tables rondes. La souveraineté et comment...
Moi, je trouve que c'est le mot des rencontres. Hein. Ouais. Souveraineté et...
Souveraineté, et voilà. Et puis, quelle stratégie pour arriver, un, à maîtriser la dette publique, deux, à faire les investissements colossaux qui sont nécessaires, et trois, à ne pas faire ça, c'est votre problématique, d'une façon qui soit défavorable à la dynamique économique. Quoi. Alors, ça, c'est toute la question.
Une certaine défiance vis-à-vis des politiques, 8 candidats se sont déplacés à Aix. Hein, c'était des rencontres évidemment très politiques cette année. Beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques.
Oui, mais les politiques ont été assez bien reçus, parce que je trouve qu'ils ont eu un discours assez transparent et assez honnête. Quoi.
Oui. Ah oui, on a perdu la bataille culturelle.
Oui, la question, c'est quelle stratégie? On sait qu'il faut qu'on réduise de 120 ou 130 milliards d'euros le déficit public pour stabiliser le taux d'endettement public.
Oui.
Donc, comment on fait ça? En ne chargeant pas les entreprises, et peut-être même en les déchargeant. Vous savez que en particulier les impôts de production sont 2 points de PIB plus élevés en France que dans les autres pays.
Oui.
Deux, en ne tuant pas la protection sociale. Et trois, en évitant une crise financière. Donc ça, c'est l'énorme enjeu du prochain quinquennat.
Évidemment. Erwan, même question. Vous y étiez, on s'y est croisé aux rencontres d'Aix. Qu'est-ce que vous en tirez?
Moi, je retiens effectivement le thème de la souveraineté, qui est beaucoup revenu et qui me semble être un sujet qui révèle d'autres qui vont dominer les sujets présidentiels. C'est-à-dire, derrière, c'est cette idée que... Je sens une souveraineté qui est en fait très défensive. Alors, on plaide la souveraineté parce qu'on a l'impression que l'économie ne fonctionne plus et que les autres sont plus performants que nous. Et donc, la meilleure manière... Bien sûr, de se protéger, c'est de dire souveraineté, souveraineté, fermons les frontières. Et en fait, c'est un concept qui est assez flou, qui a des définitions qui sont très vagues, très larges.
Peut-être diverses et variées, effectivement.
Absolument. Et puis, le politique, la présence des politiques à Aix, bien reçue, effectivement, avec des propos qui étaient intéressants, mais on sentait aussi, en même temps, qu'une certaine manière, on voit que l'entreprise ne croit plus aux politiques. Et je vais prêcher pour ma paroisse, mais le fait qu'il y ait Trop C'est Trop et d'autres initiatives est la preuve qu'un grand nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, ne se sentent plus représentés par le politique. Ils se disent qu'il faut prendre la parole parce que le politique ne le fera pas pour eux.
Emmanuel.
Allez, je vais faire bref. Pour moi, la bataille culturelle, elle est perdue depuis longtemps.
Ah.
Donc c'est pas. Alors il y a en plus un facteur conjoncturel. Quand vous avez un gouvernement de coalition, de toute façon, lever de l'impôt sur les particuliers, c'est pas possible. Donc on va taxer là où c'est le plus simple, c'est-à-dire les entreprises. Mais au-delà de l'économie politique,
on a eu un moment quand même à la sortie de François Bayrou qui pendant 6 mois nous a expliqué. De manière assez pédagogique d'ailleurs, alors peut-être un peu anxiogène, c'est-à-dire que la sueur du sang et des larmes, on n'avait pas les nazis en face de nous, on a juste à redresser les comptes publics.
Et c'est le problème.
Mais en 48 heures, Gabriel Zuckman a complètement effacé cet effort pour dire on va taxer les riches et puis voilà.
C'est le problème, on n'a jamais le vrai débat en France. Enfin, je trouve qu'on commence à l'avoir grâce à Philippe Aguillon. On parle des moyens, on parle jamais des fins. Je dis pas qu'il faut pas réduire les déficits publics, mais c'est pas une fin en soi. Or, nos hommes politiques, peut-être par une culture économique, nous parlent toujours du moteur. Regardez les débats qu'on a à longueur de journée sur comment va-t-on réduire les déficits. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que ça n'est pas un projet. La question, vous venez d'en parler, Patrick, c'est réduire pour faire quoi? quoi pour préparer l'avenir, innovation, éducation, etc. En fait, ils se sont mis eux-mêmes dans la nasse, me semble-t-il, en axant tout sur la question de comment je fais pour réduire le déficit. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Ça n'est pas.
On n'a pas donné de sens à cet effort.
Mais ça n'a pas de sens. Parce que ça, ça s'appelle de l'économie. Oui. Et tant qu'on n'a pas des hommes politiques qui ont
l'économie, on est sur pas
c'est
important. Experts.
C'est tant qu'ils n'ont pas compris que le sujet, il est simple, hein, il est simple. C'est niveau première année, hein. C'est la croissance éco. Comment vous faites de la croissance éco en allégeant les impôts de production? Mais on n'allège pas les impôts de production comme une fin en soi. C'est un moyen. Et on va avoir peut-être ce débat avec Erwan. Loin de moi l'idée de critiquer le mouvement. Hein. C'est très bien. Hein. Mais à nouveau, vous êtes français, vous dites, bah, finalement, c'est un mouvement corporatiste. En réalité, on n'est pas là pour réduire les impôts des entreprises, on est là pour avoir de la croissance, un discours d'intérêt général. Et je trouve que quand même, le curseur est en train de changer, notamment grâce à Aiguillon, avec ces mots de innovation. Et les Français comprennent, hein. Innovation, IA, ça parle. Parce qu'ils utilisent Claude tous les matins. Vous voyez, si on a un débat sur les fins, et on les connaît, les fins, il n'y en a pas 50, pour moi, il y en a deux. Il y a éducation, c'est l'alpha et l'oméga, hein, et deux, innovation. Si vous prenez le sujet dans ce sens, vous dites, voilà, si on veut libérer des marges de manœuvre pour préparer l'avenir, alors il est nécessaire, un, réforme des retraites, deux, réforme budgétaire. Mais on l'a pas ce débat de temps. On nous fait l'inverse. On nous dit, il faut économiser. Vous êtes français, vous dites, OK, mais pourquoi faire puisqu'il y a.
Si on me sucre deux jours fériés, mais
puisqu'il y a une cagnotte cachée, il y a une cagnotte cachée qui s'appelle les entreprises. Donc je pense que les hommes politiques se sont mis un peu tout seuls dans la nasse.
Je voulais citer, quand même, ce discours de Sébastien Lecornu. Vous allez me dire s'il vous a surpris, Patrick Artus. Comment avons-nous pu être battus sur le terrain culturel? S'est interrogé le Premier ministre. Comment se fait-il qu'à l'automne dernier, ce que l'on appelle l'outil de production est apparu pour la majorité des élites politiques comme une simple assiette fiscale disponible? Et c'est vrai que ce retournement a été spectaculaire. Il vous a surpris, là, le Premier ministre?
Oui, enfin, la franchise était claire.
Ah oui.
Et c'est d'autant plus surprenant que, mais alors on le sait récemment, l'INSEE, vous savez, a fortement révisé les comptes de la nation sur les trois dernières années.
À la hausse, 2023, 2024.
Et on sait depuis que l'économie d'offres, ça marche. Hein, donc la baisse des impôts des entreprises, la baisse de la taxation des revenus du capital, les réformes du marché du travail ont fabriqué...
On a créé 2 millions d'emplois, quand même.
Une reprise industrielle, une reprise de l'investissement. On n'a plus du tout des chiffres très défavorables sur la production industrielle. On a des chiffres favorables sur l'investissement. Donc, la politique de l'offre, ça marche. Alors, le problème, c'est une course. Tout le monde se dit combien de temps encore est-ce que les marchés financiers vont prêter à la France à 70 points de base au-dessus de l'Allemagne et pas beaucoup plus.
Bon, je rappelle qu'on est à 3,61 sur l'OAT ce matin. Bon, tout va bien,
tout va bien, mais la question, c'est, il faut faire effectivement des politiques. On sait, depuis Draghi et toutes les études, on n'a pas attendu Aiguillon. Enfin,
je suis d'accord, mais il porte le message.
Le message est passé que le problème de la France, c'est le sous-investissement, les dépenses de recherche-développement insuffisantes des entreprises. À Aix, il y avait beaucoup de représentants de la recherche fondamentale publique qui ont dit que la recherche fondamentale publique allait assez bien, hein, et était performante, créait des innovations. Donc, malheureusement, il n'y avait pas d'industrialisation.
C'est qu'il manque le chéneau avec l'entreprise, enfin la production.
C'était aussi un problème de nature privée. Du financement. Hein, on a très peu de venture capital, on n'a pas de fonds de pension, etc. Mais donc le problème est analysé. Mais si vous résolvez le problème de sous-investissement et de dépenses de recherche et développement trop faibles, vous allez aggraver le déficit public. Et donc, comment on fait? Idéalement, il faudrait accepter un déficit public très élevé pendant 5 ans, 10 ans pour faire repartir l'économie, développer l'innovation.
Mais on a ce déficit très élevé, Patrick Artus.
Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Et donc, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans un jeu à somme nulle. Donc, ce qu'on donne aux entreprises ou à l'innovation, on le prend, c'est le projet du MEDEF, hein, on le prend aux retraités et on le prend à la protection sociale. Tant qu'on est dans un jeu à somme nulle, c'est très difficile politiquement.
Ouais. Erwan Lenoir, vous avez, je l'ai dit, hein, cofondé avec Éric Momy, le patron d'April, le mouvement Trop c'est trop. Comment est née cette histoire?
Alors, je vais revenir, puis ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Emmanuel à l'instant. Le mouvement, c'est justement dans les débats sur le PLF 2026, donc en novembre dernier, il y avait la bataille culturelle du moment était uniquement de savoir qui on allait taxer et comment taxer toujours plus les entreprises. Et là, on a avec Eric, on a écrit une tribune qui a très rapidement rencontré du succès, a été signée par quelques milliers d'entrepreneurs de toutes les tailles d'entreprises. Et là où on a compris qu'il y avait quelque chose qui commençait à prendre, c'est qu'on a reçu des emails de toutes petites PME, d'artisans qui nous disaient « nous, on signe ». Parce que pour dire ça, ça suffit, non pas ça suffit les d'un point de vue corporatiste pour le coup, mais vous êtes en train de tuer la croissance. Les entreprises sont ce qui porte la croissance, et si vous n'arrêtez pas de taxer, on ne va pas tenir. Et à partir de là, le mouvement a pris. Le Premier ministre nous a répondu, et on a décidé de s'organiser en association. On n'est pas un parti politique, on intervient dans le débat politique, mais on fait pas de la politique.
Oui, des petits patrons qui signent contre l'impôt, moi ça me rappelle un peu une certaine époque. Parce qu'il y a un fonds poujadiste sur trop, c'est trop.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de fonds poujadistes. Il y a un fonds, pour le coup, et d'entrepreneurs qui s'inquiètent de voir ce que le pays est en train de devenir d'un point de vue économique. Comme on n'est pas un mouvement politique, notre seul message est sur la croissance par les entreprises. On ne va pas sur les autres sujets, on n'a pas de légitimité pour ça et on n'a aucune intention. Mais là, par exemple, on vient de publier une étude faite par des 6 économistes, dont Nathalie Janson, qui intervient régulièrement ici.
Et Erwan Tizon, qui nous l'a présenté la semaine dernière.
Antoine Lévy, Olivier Rodouès, qui viennent de publier une étude contre la taxe Zuckman et qui démontre que si elle était mise en œuvre, non seulement elle ne rapporterait pas 25 milliards, mais au contraire, elle coûterait près de 10...
Oui, c'est vrai,
Elle coûterait 17 milliards de recettes fiscales par an. Et notre message est celui-ci, c'est de venir aider, éclairer le débat public du point de vue des entreprises. Parce qu'on voit bien que ce qui se prépare, c'est à nouveau un débat dans lequel la bataille culturelle est relativement déjà perdue d'avance. La seule question qu'on se pose, c'est qui on va taxer. Vous posiez la question de réaction à ce que disait le Premier ministre, la bataille culturelle est perdue. Mais il en est, d'une certaine manière, son expression en était la preuve. Il a commencé par dire... Il va bien falloir que les riches fassent quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans ce pays. À partir du moment où vous dites qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans le pays, vous êtes la preuve que la bataille culturelle a été perdue. Bah oui. Parce que vous inscrivez dans le narratif de l'adversaire.
Excuse-moi, Erwan, c'est ce que je disais exactement tout à l'heure. Vous êtes d'ailleurs, pardon, et c'est très bien d'avoir fait ce contre-rapport. Il y avait déjà eu le rapport du CAE qui divisait le rendement de la taxe
par
4.
Absolument, on a reçu Xavier Lavelle.
Mais pardon, c'est pas une critique, c'est pour débattre.
Oui, c'est 5 milliards maximum.
Tu réponds finalement à l'argument, tu légitimes quelque part la taxe Zuckman en montrant qu'elle ne marchera pas. Pour moi, le sujet, c'est pas taxe Zuckman ou pas taxe Zuckman, c'est à supposer même qu'il y en ait une. À supposer même, tiens, mettons-nous dans le scénario où ça marche. C'est 20 milliards, je crois.
25 milliards, oui.
La question, c'est pour faire quoi ?
Absolument.
Pour faire quoi ? Moi, j'aurais un discours complètement sur le projet. Et là, le français, il peut comprendre. Parce que si vous dites la taxe Zuckman, ça marchera pas, mettez-vous à la place du français qui est pas forcément économiste, il va dire, ok, c'est ton opinion. Il y en a un qui dit plus 20 milliards, le CAE dit plus 5 milliards, le nouveau mouvement avec son étude d'expert montre moins quelque chose. La balle au centre.
Quoi, ça, on sait toujours quoi faire des recettes. On va vous redonner du pouvoir d'achat.
Justement, assumer.
Plus de personnel pas plus de professeurs. Assumer. Et la vie sera meilleure. Parce qu'on fonctionne plus. C'est toujours le même discours.
Assumer l'idée, qui pour nous est évidente, qui ne l'est pas pour les Français, que la croissance, ça se construit avec deux piliers. Éducation, innovation. J'en connais pas d'autres. Donnez-moi d'autres éducations au sens large, formation, taux d'emploi, etc. Tant que vous n'aurez pas ce discours-là rentré dans les esprits, ça ne marchera pas. Parce que ça passe pour un débat entre économistes. Et on vous dit, ok, vous dites ce chiffre-là, l'autre me dit l'inverse. Moi, j'aurais dit la taxe Zuckman, à supposer même qu'elle soit mise en œuvre, ça n'est pas le sujet. Le problème de la France, ce n'est pas les inégalités. Le problème numéro un de la France, c'est qu'on n'a pas assez de croissance parce qu'on a un taux d'emploi trop faible, etc. Enfin, ça a été dit par Patrick 1000 fois dans les échos. On le sait, ça. Mais ça ne percole pas dans le discours politique.
Patrick,
il faut réaliser que la classe moyenne souffre, tant qu'en France, mais dans les pays de l'OCDE. Mais en France, on a un problème d'emploi. Il y a un niveau d'éducation qui a beaucoup augmenté, mais il n'y a pas les emplois correspondants. Les emplois, le marché du travail se bipolarise. On crée des emplois très qualifiés ou très peu qualifiés et on détruit des emplois intermédiaires. Et ça, c'est très mauvais pour la classe moyenne. Elle a une pression fiscale très importante. C'est le débat sur le brut, le net.
Oui, rapprocher le net du brut, bien sûr.
Voilà,
je rappelle qu'on a le net point fiscal au social, comme on dit, parmi les plus élevés de l'OCDE.
Il n'y a plus d'ascenseur social. L'INSEE publie des tables de destinée qui montrent que si vous êtes enfant d'ouvrier et d'employé, vous êtes ouvrier et employé avec une probabilité très très élevée.
Oui.
Et donc, il faudra pas que réparer la croissance, il faudra réparer la situation de la classe moyenne. Parce que si vous laissez la classe moyenne dans cette... Et puis plus le prix du logement, hein, qui est un oui, facteur essentiel sûr. D'appauvrissement de bien la classe sûr. Moyenne. Si vous laissez la classe moyenne s'appauvrir, la classe moyenne, elle va devenir populiste. Et donc, elle va voter aux extrêmes, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et vous aurez plus du tout de voix pour les partis sérieux qui prônent le retour de la croissance, la R&D, l'effort de recherche, l'effort d'investissement. Mais vous aurez des politiques populistes et les politiques populistes vont faire des...
On l'a déjà, oui, on a 50%
les politiques populistes, c'est baisser la durée du travail sur la vie, c'est avancer l'âge de la retraite, c'est augmenter les prestations sociales et c'est certainement pas...
orthogonal avec
À la base de ça, à nouveau, il y a le dépérissement et l'appauvrissement de la classe moyenne. Et tant que vous ne le corrigerez pas, vous aurez un problème politique qui est la France se dirige aux extrêmes politiquement.
Ben oui,
Manuel. Mais en deux, je rejoins Patrick, quand je parlais d'éducation, c'était essentiellement la reproduction sociale.
Oui.
Vous pouvez taxer les riches autant que vous voulez. Vous pouvez taxer les riches autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas réformé structurellement l'école pour remettre de l'ascenseur social, vous ne résolvez pas le problème. Donc, ce que j'entends par éducation, c'est pas seulement que plus de personnes soient bien formées, c'est aussi ce sujet qu'évoque Patrick. La France n'a jamais été aussi inégalitaire au sens de reproduction destinée. Ça, c'est quelque chose dont tous les Français s'aperçoivent chaque jour.
Alors, dans cette idée d'égalité réelle des chances, c'était un texte qui avait été porté par Dominique Strauss-Kahn au tout début des années 2000. Il y avait l'éducation, évidemment, l'idée que il n'y a pas à être égalitariste, puisqu'il y en a des meilleurs que d'autres, donc qu'ils aillent à la course. Par contre, qu'on soit tous sur la même ligne de départ. Et ça, c'est le sujet, Erwan Lenoir, des successions, de l'héritage, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes familles. Et donc, ça a été évoqué, ça aussi, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, par le Premier ministre, qui a repris une proposition de Philippe Aguillon, qui est que, plutôt qu'un nouvel impôt sur la fortune, pourquoi ne pas orienter une partie des très grands héritages vers la recherche, l'éducation ou la défense, par le biais de fonds d'investissement public, de diriger, orienter vers la prospérité commune. Soit les grandes fortunes mettent leur argent dans ces fonds, soit elles sont taxées très durement. Sébastien Lecornu a dit chiche, et même pour le prochain, dès le prochain projet de loi de finances. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Erwan Lenoir ?
Dès lors qu'on considère que le racket est une bonne idée, oui. Mais en réalité, c'est du racket. Soit vous payez, soit vous êtes taxé.
Oui.
Donc ça revient à la... C'est pas la bonne... Moi, j'ai plaidé pour l'impôt volontaire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais d'inciter les grandes familles françaises ou les plus grandes fortunes françaises à contribuer. Mais d'abord, elles contribuent déjà énormément, fiscalement. Donc est-ce que ça vient alourdir ce qu'elles donnent déjà ou est-ce que c'est en déduction ? Tout ça n'est pas bien clair. Est-ce que c'est un impôt fléché ? Ou est-ce que c'est un don contraint ?
C'était la grande question et le grand débat parmi tous les participants et les chefs d'entreprise. C'est est-ce que c'est un nouvel impôt ou pas ? Ou est-ce que c'est un moyen de contourner la taxe Zuckerman encore une fois ?
Tout ça reste très vague. La justification qui est que les inégalités me semble aussi pas être la bonne. Si on dit qu'il faut que les grandes fortunes françaises fassent plus œuvre de philanthropie, elles en font déjà, mais comme c'est possible aux États-Unis et notamment sur les transmissions, ça suppose par exemple de supprimer la réserve héréditaire, c'est-à-dire ce principe qui oblige...
C'est un véritable problème, c'est ce que dit Pierre-Édouard Sterrin, c'est ce que dit Xavier Niel, c'est qu'ils sont obligés de transmettre à leurs enfants alors qu'ils voudraient laisser... quelques centaines de millions. Hein,
tout exactement, bien, le giving pledge qui existe aux États-Unis où les grandes fortunes se sont dit on transmet dans un but d'intérêt général. En France, ça n'est juridiquement pas possible. Oui. Et donc, l'initiative aujourd'hui, portée par Lecornu, moi, me semble très vague. La manière dont elle est argumentée ne me semble pas la bonne. Par contre, si l'objectif est de faire en sorte qu'il puisse y avoir augmenté les philanthropies, ça me semble être une très bonne chose.
Patrick Artus, bonne ou mauvaise idée ?
Je suis très favorable à l'idée qui est défendue par Philippe Aguillon et Lecornu et à l'idée qui a été défendue par le Cercle des économistes dans la déclaration finale d'Aix, qui est, alors, l'idée d'Aguillon, donc c'est pas une taxation, hein, c'est du fléchage de l'argent de l'héritage.
Bon, le flingue fiscal sur la tempe.
Oui, mais les héritiers resteront propriétaires de l'argent. Donc simplement, il y a un fléchage de l'utilisation de l'argent. Donc c'est pas du tout de
c'est pas de la confiscation, c'est pas de la spoliation. Ça n'est pas du racket.
Et même cet argent sera bien investi et il aura un rendement probablement très élevé.
Est-ce qu'on sait qui gère la gouvernance ?
Ma question, c'est très compliqué parce que d'abord, il y a une très grande partie des héritages qui est utilisée pour investir dans dans l'innovation, dans les investissements, dans les startups. Il y a les family office qui investissent dans des entreprises de création. Donc, voilà. Et donc, je suis assez favorable à la seconde proposition qui a été faite par le Cercle, qui est d'utiliser une taxation vraiment des héritages pour donner un capital initial à tous les jeunes Français. Quand ils atteignent 18 ans, ce qui leur permettra de créer une entreprise.
C'était une des idées de Jean Pisani-Ferry.
De payer des études plus longues, etc. Le problème, c'est la concentration du patrimoine. Et le patrimoine se concentre et il se transmet, cette concentration est alimentée par l'héritage. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 60% du patrimoine est hérité. En 1970, c'était 30%. Si on ne fait rien, on va retrouver la situation du début du 20e siècle où 90%... C'est une société d'héritiers, c'est une société de rentiers. C'est pas une question politique, c'est une question de dynamisme économique. Une société de rentiers n'est pas dynamique. Oui. Et donc, on aurait tout à gagner à distribuer une partie du patrimoine sur une base très très large à tous les jeunes qui en s'en serviraient probablement pour se former, pour continuer leurs études ou pour créer une boîte. Et ça, je pense que c'est un projet beaucoup plus facile à mettre en œuvre que le projet d'Aguillon, qui est très compliqué dans la gouvernance. Quoi.
Erwan, puis Emmanuel.
Non, mais je comprends l'objectif de l'égalité des chances. J'ai créé des associations qui aidaient les jeunes des quartiers à réussir, à tenter les grandes écoles et les réussir. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de mobilité sociale dans ce pays. Par contre, ce raisonnement, il a un défaut, c'est que le postulat n'est pas le bon. Ce qui empêche la mobilité sociale aujourd'hui en France, ça n'est pas que la puissance publique manque de moyens. Elle a jamais eu autant de moyens.
Les pays plus dépensiers au monde.
Et pourtant, il y a toujours moins de mobilité sociale. Ce qui empêche la mobilité sociale, c'est pas qu'il n'y ait pas assez d'État, c'est qu'il y a beaucoup trop d'État. C'est que le système scolaire est sclérosé par des gens qui connaissent par le défaut de concurrence, par des gens qui savent comment ça fonctionne et qui profitent de leur rente d'information. Ce qui réussit le mieux dans le milieu scolaire aujourd'hui, les gosses de riches, parce qu'ils ont les moyens d'avoir les informations, et les fils de profs, bien mieux que les gosses de riches à certains niveaux, parce qu'ils connaissent le système. C'est pas en mettant de l'argent que ça va changer. Exactement. Ce qu'il faut changer, c'est mettre de la concurrence dans ce système, c'est faire en sorte que la dépense publique soit plus efficace. Mettre de l'argent dans un truc qui marche pas, ça ne fera pas fonctionner.
Oui, je reprends mon idée tout à l'heure. À nouveau, nous confondons les fins et les moyens. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on prélève des recettes supplémentaires en l'espèce à l'occasion de transmission. Hein. C'est quand même mieux, me semble-t-il, que de taxer les entreprises, parce que ça, il y a quand même une utilité sociale. Donc c'est un second baisse, mais ça résout toujours pas le sujet. Donc vous allez prélever. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous allez l'investir dans l'éducation nationale qui ne fonctionne pas. Donc prenons le problème à l'endroit. Quelle est la bonne réforme ?
On pourrait commencer par renforcer le salaire des profs
notamment,
pour augmenter le niveau.
On peut en discuter. Je pense qu'on prendra la hausse. Je suis fonctionnaire et professeur. On prendra la hausse de salaire. Je suis pas sûr qu'on prendra la contrepartie qui va en face. Donc attention, quel est le deal global ? Mais pour revenir au sujet, quel est le projet de réforme de l'école ? J'ai fait 3 ans de cabinet ministériel à l'éducation nationale. J'ai vu un système, à mon sens, irréformable. Mais ça, on pourrait en parler des heures.
Pourquoi ?
Parce que il y a trop d'intérêts corporatistes, premièrement, et la solution est tellement, et Erwan l'a un petit peu évoqué, la solution est tellement disruptive qu'elle est quasiment impossible à mettre en œuvre.
C'est passé par le privé.
Ça s'appelle la concurrence entre établissements. Et ça, bien sûr, personne n'en veut. Mais restons sur le sujet. Pour moi, le sujet, c'est quel est le projet pour une école qui fonctionne? Quel est le projet pour une innovation? Parce qu'on peut en parler aussi d'innovation qui marche pas. Un certain nombre de programmes publics qui sont très discutables, hein, le crédit impôt recherche, etc. Et une fois qu'on a résolu ça, alors pourquoi pas en seconde best se dire puisque on a des finances publiques qui sont fragiles, allons taxer les riches. Mais à nouveau, je le vois comme une réponse à la taxe Zuckerman. De toute façon, on est obligé d'avoir une réponse face à la taxe Zuckerman.
Tout tourne autour de ce concept. C'est quand même dingue.
Elle fait consensus. Je pense que je suis sûr que si on faisait un sondage, je sais pas s'il a été fait. Je pense que la majorité des Français y sont favorables.
Il y a eu des sondages,
tout le monde.
Donc il faut y répondre.
Mais à nouveau, c'est évident. Il suffit de taxer 8 personnes.
Mais pardon, on retrouve notre débat tout à l'heure. On va avoir un débat sur qui on taxe, alors que le vrai débat, c'est pour faire quoi.
Mais ça, c'est aux politiques de donner la réponse.
Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'à mon avis, il y a un déficit d'éducation économique.
Patrick Artus.
Bon, je pense que le système éducatif est clé. Hein. Et alors, contrairement à une idée reçue, la France dépense peu dans le système éducatif. Si vous regardez les dépenses d'éducation et que vous enlevez les retraites des enseignants, la France dépense au moins un point de PIB de moins sur son éducation que la moyenne des pays européens.
Un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros.
On dépense 3,5 points de PIB hors de retraite, parce qu'il faut faire des choses comparables, et les autres pays, c'est au moins 4,5. Et dans certains pays, 5. Et dans les pays qui vont bien, qui ont des systèmes éducatifs performants, les pays du Nord, hein, le Danemark, la Finlande, la Suède, etc. Alors, pour regarder la qualité du système éducatif, il y a un indicateur qui est très, très, très pratique, c'est la proportion de NEETs, hein, de jeunes qui sortent du système éducatif sans
emploi, travail, sans formation, etc. Sans diplôme.
On est à plus de 12% en France, on est autour de 5% dans les pays du nord de l'Europe.
On a entre 1 million et 1 million et demi de gamins qui n'ont absolument aucune formation ni diplôme.
C'est 12,5% des 15-29 ans.
Et donc le taux d'emploi. Enfin, à la fin,
et donc, effectivement, ça déprime le taux d'emploi des jeunes, etc. Alors, on sait faire. Donc, il faut rendre les carrières de prof attrayantes. Donc, il va falloir plus d'argent public, curieusement. Et puis, il faut se dire que il faut regarder ce qui marche. Regarder le système finlandais. Le système finlandais marche très bien. Le système suisse marche très bien.
C'est pas
des systèmes extravagants. Les enfants se suicident pas comme en Corée. Et donc, simplement, on enseigne différemment. Et donc, il faut copier les expériences étrangères qui marchent et mettre de l'argent.
Oui.
J'ai un petit doute sur le coût de la transition, et sans vouloir offenser les professeurs, et je suis moi-même professeur, on est dans un équilibre où on est assez peu payé avec des obligations finalement relativement faibles. Il faut passer à un équilibre où on est très très bien payé, car on oublie de raconter la fin de l'histoire. En Allemagne, un professeur de lycée, par exemple, est payé, je crois, à peu près 30 à 50% plus.
Oui,
qu'en
bien
France.
Sûr.
Oui, mais il y a des obligations pour partie. C'est toujours compliqué de passer d'un système à l'autre. En fait, il y a deux équilibres et on est enfermé dans un équilibre où on se dit, je suis pas très très bien payé, mais j'ai quand même un certain nombre de latitudes qui n'existe pas forcément dans un système réformé. Comment vous passez d'un système à l'autre, si ce n'est peut-être en misant sur les nouveaux entrants. Nouveaux entrants, nouveaux contrats. Mais ça risque de créer une dualité au sein de l'éducation nationale. Vous avez quand même un coût de la transition d'un modèle à l'autre.
Toujours. Il faut payer pour transformer, c'est ce qu'on dit souvent.
Un coût en termes de résistance, pas seulement de monétaire.
Et donc il faut un peu de volonté politique.